au lendemain de la défaite de 1871 et en réponse aux historiens allemands qui, au nom d'une théorie ethnique, soulignait la germanité de l'Alsace alors que ses ressortissants se déclaraient français, l'historien Ernest Renan répondait à l'épineuse question « Qu'est-ce que la nation ?» en ces termes. Une nation est une grande solidarité constituée par le sentiment des sacrifices qu'on a fait et de ceux qu'on est disposé à faire encore. Elle suppose un passé, elle se résume pourtant dans le présent par un fait tangible, le consentement, le désir clairement exprimé de continuer la vie commune. L'existence d'une nation est, pardonnez-moi cette métaphore, un plébiscite de tous les jours, comme l'existence d'un individu est une affirmation perpétuelle de vie. Plus loin, l'historien ajoutait « Une grande agrégation d'hommes sains d'esprit et chaudes de cœur crée une conscience morale qui s'appelle une nation ». Alors cette définition est-elle encore valable? À entendre les sifflets qui ont dernièrement accompagné la Marseillaise lors du match de football France-Tunisie au Stade de France, on pourrait en douter car, ne nous le cachons pas, la nation n'a plus la cote. Ceux qui s'en réclament développeraient un culte suspect et une obsession malsaine. Au mieux ringard, au pire raciste, ces symboles désigneraient l'expression d'un chauvinisme belliqueux. Le mot « nation » est donc devenu le mot « censeur ». Sans revendiquer, malséant décalage, la nation n'est plus moderne. Oubliez donc ceux qui étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui criaient la France en s'abattant. Oubliez Renan et le riche legs de souvenirs, le désir de vivre ensemble et le plébiscite de tous les jours. Du passé, Michelet, Has-been les Lumières, Anachronique Valmy sur année 1789, Peggy, Jaurès, Hugo, Aristide Briand, Jean Moulin, Clémenceau, un panthéon élimé de vieilles badernes. Mais comment en est-on arrivé là? Et si cette image rétrograde et xénophobe qui a longtemps été véhiculée en France n'était qu'une caricature? Quelle philosophie se cache derrière le concept de nation en France? Qu'en est-il de l'universalisme de Renan et du Wolgeist de Herder? Qu'est-ce que c'est que le récit national? Ce sont ces questions que nous avons choisi de poser à l'historien Patrick Abanel. Patrick Abanel est directeur de l'équipe Diaspora à la faculté de Toulouse Le Mirail. Il est aussi l'auteur d'un grand nombre d'ouvrages, dont le dernier s'intitule « Le tour de la nation par des enfants » chez Belin, une étude sur les romans scolaires qui, en Europe, ont fait nation, comme ce fut le cas en France avec le célèbre livre « Le tour de la France par deux enfants ». Alors la première question que nous avons voulu poser à Patrick Abanel, c'est celle que s'est posée Ernest Renan en 1882. Qu'est-ce que la nation?
C'est une chose qui est difficile à définir. On croit que c'est simple, surtout en France où on parle volontiers d'État-nation, parce qu'on considère que c'est la même chose. Alors qu'en fait, ce sont deux choses très différentes et c'est l'un des drames de l'Europe. C'est la volonté qu'ont eu un certain nombre de peuples au XIXe siècle de faire coïncider les frontières d'un État et puis les frontières d'une nation. Et c'est un drame parce que un État, c'est facile à définir. Un État, c'est une réalité objective, concrète, c'est une monnaie, ce sont des frontières gardées militairement, c'est un droit, etc. Une nation, ce sont des frontières immatérielles. Une nation, ça peut être l'ensemble des gens qui parlent une langue. Mais lorsque cette langue est parlée de part et d'autre des frontières, que fait-on? Une nation, ça peut être aussi, au sens politique, l'ensemble des gens qui se lient par une sorte de contrat, qui se reconnaissent une mémoire commune. Et là, on est dans des frontières qui ne sont pas des frontières politiques, qui sont des frontières linguistiques, culturelles, mémorielles, ethniques, lorsque certains choisissent de définir par l'ethnie un groupe. Et c'est extrêmement différent et ça peut être très dangereux pour l'équilibre européen.
C'est justement la particularité de la nation française qui s'est construite en opposition à la nation allemande. La nation allemande faisant plus référence à l'ethnie et la nation française véhiculant évidemment son universalisme. La façon dont elle s'est construite, est-ce que c'est une exception?
La nation française, non, elle n'est pas exceptionnelle. Elle correspond à des modèles où ce qui a préexisté, c'est un État. Un État puissant, ancien, modernisé, servi essentiellement par des légistes. Et c'est le cas d'un certain nombre de grands États d'Europe de l'Ouest. C'est le cas de la Grande-Bretagne, c'est le cas de l'Espagne, c'est le cas de la France. Et là, lorsque l'État préexiste, il est relativement facile, ensuite, pour l'appareil d'État, de construire, par exemple, une éducation nationale, comme nous disons aujourd'hui. Et ça, c'est le modèle français. Alors que dans le cas allemand, qui s'est effectivement construit en opposition au cas français et vice-versa, il n'y a pas un coupable dans les deux histoires.
Il y a même une vraie joute intérieure.
intellectuelle entre les historiens, entre Herder, Fichte et puis de l'autre côté Renan.
Absolument, il y a une joute et puis il y a une sorte de construction en miroir. C'est la fameuse formule des philosophes, on se pose en s'opposant. Et le problème de l'Allemagne, qui a été aussi un problème européen, c'est qu'en Allemagne, il n'y avait pas d'État unique centralisé préexistant. L'Allemagne, c'est une poussière d'États et donc ils ont été contraints, les Allemands du XIXe siècle, de définir autrement la nation que par l'État. Et ils ont choisi essentiellement de la définir par la langue et par la culture. Et après, mais beaucoup plus tard, certains ont choisi de la définir pour faire vite par le sang. Et là, ça a conduit évidemment à des drames au XXe siècle.
De quel droit, monsieur, occupez-vous ce siège?
Mon nom est Bailly. Je suis astronome, membre de l'Académie des sciences et député de Paris. Ces messieurs m'ont élu président de l'Assemblée nationale.
Vous avez tous entendu le roi vous donner l'ordre de vous disperser.
Je crois, monsieur, que la nation assemblée n'a d'ordre à recevoir de personne.
Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes.
Quels ont été les atouts de la France pour construire cette nation?
Alors, les atouts de la France, j'en verrai au moins deux. D'une part, il y a effectivement l'État qui préexiste et qui lui-même inculque une certaine mémoire collective. Et puis, il y a aussi, et ça a été l'une des chances de la France qu'elle partage avec quelques rares pays dans le monde, je pense à l'Angleterre du 19e, je pense aux États-Unis encore de nos jours, c'est que la France a réussi à confondre, si j'ose dire, son intérêt national égoïste et puis l'intérêt universel de l'humanité. Et lorsque la France, en 89, déclare les droits de l'homme, ce sont à la fois les droits des Français, et puis c'est une conception parfaitement universaliste. Ce qui fait que la France a été très à l'aise dans son histoire pour parler d'elle-même, parce qu'elle considérait que lorsqu'elle parlait d'elle, elle parlait de l'humanité et vice-versa.
Il y a des gens qui sont allés se faire tuer pour cette fiction-là, pour cette communauté imaginaire. Comment peut-on le comprendre et par quelle entremise ça s'est construit tout ça?
Alors, ça c'est une question qui est vaste, que les historiens ont beaucoup travaillé à propos de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire la fameuse polémique entre historiens sur le consentement et la contrainte. C'est-à-dire que les soldats sont toujours, évidemment, des gens contraints, les citoyens aussi. Il y a dans une nation, c'est normal, des droits et aussi des devoirs. Il y a des impôts. Ce que l'impôt aujourd'hui, nous le connaissons toujours, mais jadis, on parlait beaucoup de l'impôt du sang, c'est-à-dire le devoir de conscription et effectivement le devoir de guerre pour la nation et le devoir de mourir à la guerre pour la nation. Mais ce n'est pas seulement de la contrainte, c'est-à-dire qu'il y a aussi une part d'adhésion. Et dans le cas des Allemands, dans le cas des Français, dans le cas de beaucoup d'États-nations aujourd'hui, les citoyens adhèrent aussi à l'idée qu'ils se font d'un destin collectif. Ils en sont, on peut trouver ça naïf ou critiquable, mais dans l'histoire, beaucoup de ces citoyens ont été fiers d'appartenir à une nation et ont accepté largement le devoir le plus sévère, qui est le devoir du sang.
Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. La loi n'a le droit de défendre que les activités nuisibles à la société.
Cette construction, en tout cas la construction de cette fiction, ne s'est pas faite sans accroc. On voit aujourd'hui, par exemple, ressurgir des revendications régionalistes, notamment autour des langues régionales. On voit aussi que l'Espagne, qui ne s'est pas construite évidemment comme la France, mais qui a fait la part belle aux régions, elle aussi revient à des revendications plus identitaires et voire même ethnicistes. Est-ce que ça veut dire que la nation ne s'est pas toujours fragile, mais est-ce qu'elle ne s'est pas constituée comme de façon définitive ?
Alors, une nation, c'est toujours une construction, c'est-à-dire c'est jamais inachevé. Les constructions, ça peut s'améliorer, ça peut aussi s'effriter. Et une nation, on dit quelquefois, chez les historiens, c'est une fiction. Mais il y a des fictions qui peuvent échouer, d'autres qui peuvent réussir. Dans le cas français, je crois qu'il y a très largement une réussite. Alors, évidemment, cette réussite s'est faite, c'est ainsi, c'est normal, elle s'est faite au détriment d'autres types de cultures, d'autres types de langues, les cultures, les langues régionales. Ça, c'est le cas français, mais où je crois que la construction d'un espace national de langue française a été une réussite, et une réussite qui a eu sa part aussi de contraintes, sa part aussi d'amputation de culture et de langue régionale. Mais très clairement, il y a eu une adhésion, notamment autour de l'école, parce que c'est l'école qui fait très souvent les nations. Dans le cas espagnol, pour en dire un mot, là, il y a eu un échec de l'État-nation central. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, l'État espagnol, qui était de langue espagnole, ou castellane si on peut dire, n'a pas réussi à construire, par exemple, un système d'enseignement vraiment centralisé, efficace et puissant. Et cet échec de l'État espagnol a laissé la voie libre à l'expression de fortes cultures régionales, d'autant qu'en Espagne, je pense à la Catalogne et au Pays Basque, c'était les régions les plus industrialisées. Et donc la puissance industrielle est venue au secours de l'identité régionale, alors que ce n'est pas du tout le même type de géographie et d'histoire dans le cadre de la constitution de la nation française.
Que tu sifflotes, Pichoun.
Le château aussi.
Écoute. Hein.
Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons.
T'as appris ça où ?
Tiens, à Strasbourg.
Strasbourg ?
Un charpentier qui chantait, aux gros oies.
Ils ne sifflent pas un hymne national. Ils ne sont pas venus l'utiliser pour siffler la Marseillaise. C'est ceux qui sont chez nous, puis qui sont contents d'y être, parce qu'ils s'y trouvent peut-être mieux ici que dans leur pays. Alors, c'est tout de même un peu navrant qu'à chaque fois que maintenant on va entendre la Marseillaise, on siffle la Marseillaise.
François Fillon dit qu'il faudrait arrêter les matchs quand les hymnes sont sifflés.
Oui, on arrête le match. Là encore, on va mettre un pansement, on va arrêter le match. Et alors, on va résoudre le problème de la souffrance de ces hommes et ces femmes qui, quelque part, expriment qu'ils ne se sentent pas bien chez eux.
Elle a du mérite, l'âme, car vous l'avez entendu, évidemment, la Marseillaise a été sifflée.
Honteux.
Mais certains encore, des régionalistes, en veulent beaucoup à la République. Alors quel rôle a joué la République justement dans ce désir d'unifier la France autour d'une langue, autour d'une géographie ?
Elle a joué un rôle majeur, mais qui n'est pas unique. C'est-à-dire que cette construction d'une langue française parlée par tous, elle existe, elle commence au XVIIe siècle, elle touche les villes, elle touche les élites, c'est toujours par les élites que viennent les acculturations, et puis elle descend, elle se diffuse dans le peuple. La Révolution française a joué un rôle essentiel, le Premier Empire, la Monarchie de Juillet avec la célèbre loi Guizot de 1833, qui est vraiment la loi qui a scolarisé les Français, et la République est donc à la fois celle qui parfait la tâche, et l'héritière d'une tâche déjà séculaire. Donc il ne faut ni trop l'accuser, ni trop même lui prêter. Elle s'inscrit dans une continuité. C'est vrai que la Troisième République, c'est la démocratisation réussie, notamment de l'enseignement pour tous. Et cet enseignement, on a choisi de le faire en français, on a choisi d'inculquer une histoire nationale avec un panthéon de héros nationaux, on a choisi d'inculquer le sentiment d'une profonde unité nationale. Et aujourd'hui, il y a face à la République un certain nombre de revendications, mais qui sont, je dirais, typiques d'une certaine gauche française qui considère que la République et l'État sont coupables d'à peu près tout, du point de vue régional, du point de vue de la colonisation, du point de vue du statut des femmes, de la classe ouvrière. Et là, on entre dans des problèmes de mémoire passionnants, mais où il y a de l'idéologie dans la mémoire, bien sûr.
On y reviendra très rapidement tout à l'heure, mais vous avez parlé de l'école. On cite souvent en exemple les hussards noirs. Vous avez consacré un livre autour d'un ouvrage qui a fait nation, on va dire, hein, qui a construit le récit national. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ?
Oui, le livre, c'est tout simplement le très célèbre manuel de lecture qui a été écrit et publié en 1877 et qui a été utilisé pendant des dizaines d'années, tiré à l'heure actuelle à près de 9 millions d'exemplaires. C'est le Tour de la France par deux enfants de G. Bruno, qui en fait était une femme, et qui est un livre qui conjugue à la fois deux ressorts, le ressort encyclopédique, il s'agit de tout dire en un seul livre de ce qu'est la France, sa géographie, ses idées, son histoire, son malheur, la défaite de 1870, à part les Astorennes, et puis le ressort mélodramatique. C'est-à-dire que c'est un vrai petit roman qui était destiné à tirer des larmes aux enfants, puisque c'était le récit de la quête éperdue d'un père ou d'un oncle, en fait d'une nation, par deux orphelins issus de la Lorraine conquise. Et donc si vous mêlez le ressort mélodramatique et la volonté encyclopédique, vous avez un livre qui s'est trouvé historiquement d'une efficacité absolument exceptionnelle et qui, oui, au sens propre du mot, a fait la nation française.
Justement, mon cher Joseph, laissez-moi vous présenter monsieur le curé.
C'était la première fois que je voyais mon père face à face avec l'ennemi sournois.
Bonjour, monsieur.
Monsieur l'instituteur, enchanté.
Est-ce que c'est une exception parce que votre livre traite de plusieurs livres en Europe, c'est ça ?
C'est pas du tout une exception, c'est-à-dire que j'ai découvert, à ma grande surprise, que la plupart des vieux États ou des jeunes nations du XIXe siècle ont recouru au même type de processus, c'est-à-dire demander à tel ou tel manuel scolaire de lecture, hein, je parle pas des manuels d'histoire, de faire la nation. Et j'ai pu étudier des exemples tout à fait topiques, notamment en Italie, avec un très célèbre roman d'un grand romancier, d'Amicis, Cuore, Les Cœurs, qui est aussi un roman à la fois scolaire et mélodramatique. Il y a aussi des exemples tout à fait parlants en Espagne, en Suisse, au Mexique, au Québec, aux États-Unis, au Brésil. Et puis, je finirai par là, un très grand roman, parce que le reste, c'est souvent des manuels aujourd'hui dépassés, mais là, un très grand roman de la littérature mondiale, dont l'auteur a eu le prix Nobel quelques années après l'avoir écrit, c'est le roman suédois qui a fait la nation suédoise, Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède.
À l'école, nos jours sont beaux et le temps passe vite, vite. Riches et pauvres sont égaux, chacun selon son mérite.
On a pour nous-mêmes bonté, ça fait que ça nous encourage et donne du cœur à l'ouvrage. Vive l'égalité, ok ? Vive l'égalité !
Alors quel rôle ont joué les historiens à ce moment-là ? Est-ce que l'histoire ne s'est pas créée avec la constitution des nations ?
Oui, il y a un parallèle évident, c'est-à-dire que le XIXe siècle est à la fois le siècle des nations et le siècle de l'histoire. Et c'est le siècle des histoires nationales, c'est-à-dire de ce travail d'appropriation et d'inculcation par lesquels les historiens, aux côtés des légistes, aux côtés des hommes politiques, aux côtés des romanciers, expliquent ce que c'est qu'une nation, quelles sont les batailles, les défaites, les héros, les grands rois, les règnes de mémoire qui ont fait une nation. Et donc on cite toujours en France Michelet et Lavis. La différence entre les deux, c'est que Lavis, c'est l'historien de l'école, alors que Michelet était l'historien plutôt de l'université. Mais des Michelet et des Lavis, on en trouve dans tous les pays d'Europe. En Tchécoslovaquie, la future Tchécoslovaquie, c'est Palaski. En Allemagne, c'est Mommsen ou Treitschke, etc.
Donc on peut dire que c'était des historiens qui étaient au service de cette cause ou pas ? Et est-ce qu'à un moment donné, les historiens ont connu une rupture, une révolution ?
Oui, je crois qu'ils étaient très sincèrement, librement aussi. Il n'y a pas d'histoire officielle, on n'est pas dans des pays totalitaires à l'époque. Mais c'est vrai que ces historiens avaient le sentiment, à leur place, de servir leur nation comme d'autres le faisaient à d'autres places. Ils étaient donc des historiens nationaux, mais ils n'étaient pas, sauf exception, ça peut arriver, ils n'étaient pas des historiens nationalistes, c'est-à-dire au sens agressif et idéologique du terme, ils étaient encore moins des historiens officiels au sens que nous aurons connu au XXe siècle. Ils étaient à leur place, et la plupart étaient des hommes de gauche, des hommes de progrès, ils se voulaient des pères de la nation. Mais bien sûr, au XXe siècle, ce type d'histoire étroitement lié à un programme national a été dénoncé, ou je dirais plus exactement, moins que dénoncé, mais abandonné par des historiens plus soucieux de scientificité, évidemment.
Mais alors, est-ce qu'on peut imaginer qu'aujourd'hui, avec la construction de l'Europe, on ait des historiens qui aient aussi cette volonté-là de construire une histoire européenne pour nous faire rentrer de plein pied dans l'Europe du futur ?
À l'évidence, c'est un des défis de l'histoire, et de l'Europe, de montrer aux citoyens que l'Europe, c'est pas seulement une construction politique, une construction monétaire, économique, mais que c'est aussi une mémoire commune. Et donc, il faut trouver les linéaments de cette mémoire commune. Vous le savez sans doute, aujourd'hui, des manuels scolaires, parce que c'est toujours par l'école que se font les identités. C'est largement par l'école. Il y a pas que l'école, mais c'est largement par ça. Des manuels scolaires sont en train d'être rédigés pour essayer d'inventer une véritable histoire européenne qui ne soit pas seulement l'histoire des guerres entre nations, mais qui soit l'histoire d'espaces communs, et l'espace des cathédrales, l'espace du baroque, l'espace de l'opéra, l'espace de la philosophie, des Lumières, ont été des espaces communs. Les Lumières, c'est un phénomène écossais, britannique, hollandais, belge, allemand, russe aussi, italien, espagnol, français. Donc on peut choisir de mettre l'accent sur ces nappes d'idées partagées, ce qui ne veut pas dire qu'on va étouffer les différences, les accents, les conflits. Mais cette histoire-là, elle reste très largement à écrire, mais je crois que ça sera l'un des beaux défis pour montrer aux Européens qu'ils n'ont pas seulement une monnaie et un espace Schengen en commun, qu'ils ont aussi une mémoire, des lieux de mémoire et des monuments.